Calade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
De Caladma Radio, bonjour, bonne année 2025, vous écoutez Couleurs du Monde, émission mensuelle qui va redémarrer bon pied bon oeil, et cette année, nous commençons cette année 2025 avec une émission sportive en quelque sorte, et plus précisément une émission sur deux arts martiaux. Je suis en compagnie d'une de mes compères, Emma. Bonjour Emma.
Bonjour à toutes et tous.
Donc on va parler de karaté et de tai chi. Alors, tai chi, c'est en fait le nom exact, c'est tai chi chuan. Mais on dit assez couramment tai chi. Il y en a un qui est d'origine chinoise, le tai chi, et le karaté d'origine japonaise. Pour cela, on a deux invités que Emma va nous présenter. Vas-y Emma.
Alors Manuel Jobert, bonjour.
Bonjour.
Et Nathalie
Darginov.
Merci.
Darginov, bonjour.
Alors, du coup, est-ce que chacun, vous pouvez un peu nous dire qui vous êtes et quelle est votre discipline ?
Alors, je commence. Bonjour, je suis Nathalie Darginov. Je pratique le Tai Chi Chuan, comme on dit en chinois, Tai Chi. C'est la boxe du fait suprême et Chuan, ça veut dire le point. Donc c'est évidemment
Pour les oreilles françaises, elle vient de dire Tai Chi Chuan à la chinoise. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a rien compris. Bravo Nathalie.
Donc le Tai Chi, c'est un art martial interne. Il fait partie des arts internes chinois. Et donc je le pratique depuis environ 25 à 28 ans. J'ai commencé à 30 ans, j'en ai 58 maintenant.
Mais tu ne les fais pas.
Mais je ne les fais pas, grâce au Tai Chi.
Le Tai Chi qu'on conserve.
Ouais.
On reviendra sur cette histoire d'art martial interne. On aura l'occasion d'y revenir.
De longue vie, je crois.
Oui, aussi, aussi. Mais ne spoile pas, Emma. Tu sais qu'il ne faut pas spoiler.
Pardon.
Il n'y a que moi qui ai le droit de spoiler, en fait.
Ah bah tiens, c'est nouveau.
D'accord. Manu, tu nous présentes un petit peu qui tu es et quelle discipline. Là, le suspense est un peu moins important. Hein. Je pense que tu vas nous parler de karaté.
Oui, je vais parler de karaté. Je suis Manuel Jobert et je pratique le karaté depuis... plusieurs années, j'ai commencé en 1985, je crois.
Oula,
ça ne me rajeunit pas. J'avais un an.
J'en avais un peu plus. Et voilà, donc le karaté, c'est parce que ça se prononce comme ça en japonais,
ah
donc
oui, c'est
la main vide.
D'accord.
Mais on pourrait y revenir. La main vide, c'est en fait une modification qui a eu lieu dans les années 30 pour effacer les origines chinoises du karaté.
Ah donc, tiens.
Quand on dit que le karaté est japonais, bien sûr, aujourd'hui, il est considéré comme un art martial japonais, un art martial externe, justement.
Externe, voilà, donc interne-externe, vous voyez, voilà. Il y a des thématiques qu'on va pouvoir développer.
Mais à l'origine, c'était la main des Tang. Donc les Tang, c'était une dynastie chinoise entre le 7e et le 10e siècle, je crois.
D'accord.
Et on a gommé ça à Okinawa, qui était une île qui était sous domination chinoise puis japonaise, et donc il y avait des tensions entre les deux. Et c'est vrai que dans les années 30, le karaté est arrivé au Japon à proprement parler. On a voulu gommer les origines chinoises. Ouais. Mais à l'origine, le karaté, ça vient du temple Shaolin, donc c'est une sorte de kung-fu qui a été mise à la sauce okinawaïenne. Donc Okinawa, d'accord, c'est une île... très très au sud du Japon et à l'est de la Chine, au niveau de Shanghai à peu près. Et donc voilà d'où la double influence.
D'accord. Donc c'est vraiment à Okinawa que ça s'est développé.
Absolument, c'est à Okinawa que ça s'est développé parce que dans la ville de Kumemura, ou Kume, qui est le port à côté de Naha, qui est la ville principale d'Okinawa, il y avait un quartier chinois et c'est là que les dignitaires chinois venaient. Enfin, pas que les dignitaires, il y avait aussi des artisans, des commerçants qui enseignaient le kung-fu. Dans cette île à ce moment-là. Et
d'accord,
en mélangeant le kung-fu chinois et l'art de combat d'Okinawa, ça a donné naissance à plusieurs styles de karaté. Donc, shurite, naate, tomarite. Donc, shurite, le château de Shuri À Okinawa, c'est le château principal.
D'accord.
Naha, c'est la ville, c'est le port, en fait. Mm-hmm. Et Tomari, c'est un petit village qui, maintenant, est intégré à Naha. Mais c'était les trois grandes branches de karaté de l'époque.
Ok, très bien.
Alors, juste, on a parlé dans la présentation, Patrick, tu as parlé de arts martiaux. Alors, qu'est-ce qui définit un art martial ?
Ah oui, tiens, recommençons au début. C'est une bonne question, Emma.
Un art martial, c'est un art, c'est pour se défendre, c'est un art martial, c'est pour le combat. C'est ce que fait le Tai Chi Chuan, d'ailleurs, qui n'est souvent pas connu sous cet aspect-là.
Oui, tout à fait.
Alors qu'en fait, à l'origine, donc, si je veux reprendre un peu comme l'a fait mon Manu, les origines du Tai Chi remonteraient avec Chen Wanting et surtout un petit village de Chine qui s'appelle Chen Jiago. D'où le nom de Chen, la famille Chen.
C'est H-E-N, vous voulez l'écrire.
Voilà.
Ouais,
la
famille Chen, voilà.
En chinois, Chen.
Ouais.
Et c'est d'ailleurs le style que je pratique, c'est le style originel. Et donc, c'était un...
On dit que l'histoire officielle reconnaît que le Tai Chi est né donc, de cette famille Chen, fin 19e. Et tu vas nous expliquer concrètement dans quel contexte.
C'est bien plus ancien que
En fait, c'est bien plus ancien. Il y a des racines plus anciennes, bien sûr. Mais elles sont assez multiples, alors on a décidé d'en rester à ça, en fait.
D'accord. Et donc, cette famille Chun, c'était un art, une boxe qui était pratiquée, on va dire, par les paysans pour défendre leur village, en fait.
Voilà, c'est ça.
Pour défendre leur culture de l'assaut des brigands. Et elle a été un peu conservée, un peu secrète et pratiquée de manière lente, de façon à la guerre. C'est ce qu'on dit, hein. Il y a eu tellement d'hypothèses.
Ça camouflait, en fait. Ça passait pour une espèce de danse.
Parce que le pouvoir officiel... traquaient et interdisaient les milices privées. Ouais. Et quand on connaît la taille du territoire chinois, on peut comprendre qu'ils essayaient d'essayer d'éviter que des petits pouvoirs locaux montent en puissance.
Exactement,
et donc, l'idée du Tai Chi pratiqué avec lenteur, c'est pour camoufler la dimension martiale. C'est un peu l'histoire qui est racontée autour du Tai Chi, que je trouve assez sympa, même si elle est...
C'est un peu la légende qui
pas complètement réelle, on ne sait pas. Oui, vas-y, Manu.
Alors c'est amusant parce qu'à Okinawa, il y a un peu la même chose, c'est-à-dire que le karaté a été transmis en partie par une danse traditionnelle d'Okinawa qui a intégré des mouvements du karaté, justement pour camoufler aussi ça.
D'accord.
Alors, c'est difficile de faire le départ entre la légende et la réalité historique, mais il est vrai que quand on voit des danses d'Okinawa, on retrouve certains mouvements
qui
correspondent
C'est assez cohérent, en fait, de camoufler le fait, parce que c'est quand même assez puissant comme
oui,
technique.
Oui, surtout. C'était un art qui était conservé secrètement par une famille, donc là en l'occurrence la famille Chen.
Ouais, voilà.
Et on sait qu'en Chine, l'héritage se transmet par le fils, par le nom. Et un jour, donc la légende dit qu'il y a un disciple,
un serviteur de la famille.
Parce que
c'est une famille riche quand même, évidemment, on se doute bien.
Qui aurait espionné le cours du maître.
Que le père donnait à ses fils.
Voilà.
Ouais.
Et il a été tellement perspicace et persévérant qu'il a été accepté comme élève, ce qui était très rare puisqu'il ne s'appelait pas Chun, il s'appelait Wang.
D'accord.
Okay. Et de là a découlé le style Yang.
Et c'est ça que l'histoire est très étonnante, c'est que c'est ce serviteur donc, qui a été accepté comme disciple par le père, qui était une exception à la règle, qui va avoir, via ses disciples, va créer ce style Yang qui est aujourd'hui le plus important sur un plan quantitatif en termes de pratique dans le monde entier.
Tandis
que le style Chen,
aussi,
qui existe toujours, est moins développé quantitativement, même s'il reste très puissant en Chine notamment.
Oui, c'est vrai que le style Yang est plus répandu que le style Chen, même en Chine. C'est
même
plutôt le style Yang. Et de là, d'autres styles sont apparus également. Et on reconnaît actuellement 5 branches principales. Donc le Chen, le style originel, le Yang, le Sun, le Wu et le Wu. Il y a deux Wu, mais avec deux accents différents chinois.
Ils aiment faire les choses simples, les Chinois. Il y a deux styles Wu. Débrouille-toi avec ça. Wu Hao, il y en a un des deux, c'est Wu Hao et l'autre, c'est Wu tout court. Bon, moi, je connais que le style Chen et Yang que j'ai pratiqué. Je connais pas les autres.
Ah, t'as pratiqué du
Yang? Au début, style Yang, quand tu étais à peine né.
Du Chen,
Moi, j'ai pratiqué du Sun, il y a même du Li.
T'es trop forte.
Li,
j'avais
ça,
entendu.
C'est beaucoup plus récent.
Qui n'est pas encore trop reconnu, mais effectivement.
Et tu saurais dire un peu, là, vraiment, si tu devais dire en de façon très simple les petites différences entre les différents styles, puisque c'est toi qui les connais le plus.
Pas évident. Le style yang. On dit que le style chien est plus proche de l'origine martiale.
Moi, clairement, je le repère. Moi, je connais que Chen et Yang, et clairement, le Chen est plus martial.
Ouais. Mais les autres, je ne connais pas.
Le Chen, c'est le seul qui a la spécificité d'exprimer l'explosion de force, c'est-à-dire qui montre l'explosion de force qui n'est pas fait dans les autres styles. C'est pour ça qu'on dit qu'il est plus martial. Ouais. Mais normalement, chaque style, étant donné que c'est un art martial interne, devrait aussi travailler cet aspect-là, ainsi que l'aspect du combat. Mais c'est vrai que ça s'est un peu développé comme ça, c'est que le style Yang ne montre pas les explosions de force, alors que le style Chen montre ça. C'est d'ailleurs aussi pour ça que moi, j'ai préféré ce style-là, vu que je venais aussi du karaté.
C'est pareil, je faisais le style Yang et j'ai eu la révélation quand j'ai croisé... deux personnes qui présentaient leur cours de style Chen. J'ai eu la révélation. C'était une révélation. Je suis tombé, glory, alléluia. Ouais. Et j'en suis jamais ressorti.
Ouais, moi aussi. Quand j'ai vu les explosions de force, j'ai dit, c'est ça que je veux faire.
Emmanuel, alors on va te redonner la parole au niveau karaté, parce qu'on parle, tu vois, on parle beaucoup de styles différents, d'écoles.
Je suis en minorité, là.
Qu'en est-il au niveau karaté? Y a-t-il des écoles différentes?
Alors oui, puisque, comme je disais, à Okinawa, il y avait trois grandes branches qui se sont formées, donc Shuite, Nahate, Tomarite, avec chacune un peu leur spécificité. Bon, les choses ont mis un petit peu de temps, mais ça a donné naissance à plusieurs styles de karaté aussi.
Ouais.
Donc, en fait, c'est Gichin Funakoshi, qui était un Okinawaïen qui a été envoyé au Japon pour... présenter le karaté grâce à Jigoro Kano, le fondateur du judo.
Le fameux Jigoro Kano
qu'on voit dans tous les dojos.
Ouais.
Et qui s'est pris d'amitié pour Gichin Funakoshi et a estimé qu'il fallait que le karaté se développe. Donc il l'a beaucoup aidé à installer le karaté à Tokyo. Et donc c'est Gichin Funakoshi qui a été choisi par les grands maîtres okinawaïens pour implanter le karaté au Japon.
D'accord.
Donc, en fait, Funakoshi venait du style Shurite, mais il y avait d'autres experts qui, après lui, sont installés aussi au Japon pour développer leur style. Aujourd'hui, on considère qu'il y a quatre grands styles de karaté. Donc, il y a le Shotokan, qui est le style qui était celui de Funakoshi à la base, même si son fils a beaucoup modifié le style. On pourra y revenir peut-être tout à l'heure.
Oui, on y reviendra, oui.
Il y a le Wado Ryu, c'est le style que je pratique.
C'est celui que tu pratiques.
Absolument. Wado Ryu, donc tu dis.
Wado Ryu. Donc, c'est l'école de la voix, de la paix et de l'harmonie.
D'accord, super.
Shoto, c'était le nom qu'utilisait Funakoshi pour signer ses poèmes. Donc, c'était son nom de plume, en fait.
D'accord,
Shoto.
Okay.
Il y a le Shitoryu, qui est un peu à cheval entre le Shotokan et le Wadoryu. Puis, il y a le Gojoryu, ça, c'est très intéressant parce que ça vient d'une autre branche à Okinawa et ça ressemble plus au style de Kung Fu du sud de la Chine. Parce que en karaté, on retrouve l'opposition style du nord du kung-fu style du sud. Donc, la légende ou l'histoire, je ne sais pas, dit que c'était les pieds dans le nord, donc des styles de kung-fu beaucoup plus aériens et acrobatiques dans le nord, et le poing dans le sud. Donc, il y a donné des styles de kung-fu, par exemple, comme le Wing Chun, qui est un style où il y a très peu de coups de pied, mais il y a une des techniques de poing très, très développées.
D'accord.
Et donc, le Goju-ryu vient plutôt du sud. Donc via le Nahate. Et puis les trois autres styles que j'ai mentionnés, Shotokan, Wadoryu, Shitoryu, viennent plutôt du Shurite, c'est-à-dire des styles du Nord, même si tout ça a été un petit peu mélangé.
Très bien.
Alors, à côté de ces grands styles, il y a d'autres styles qui se sont développés aussi, mais c'est vrai qu'au niveau quantitatif, ce sont les styles les plus pratiqués au Japon. En France, il y a une domination totale. Du Shotokan.
D'accord, très bien, c'est bon à savoir. On reviendra un peu sur tous ces points, mais ça nous donne des bases déjà pour comprendre un peu toutes ces grandes familles en quelque sorte. On va faire une première pause musicale qui a été choisie par Manu, notre karatéka, et on vous laisse la surprise de la découverte du morceau.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. And
couleurs du monde.
Vous écoutez Les couleurs du monde sur Caladma Radio, votre émission mensuelle favorite. Nous consacrons notre émission de ce mois-ci aux arts martiaux et à deux arts martiaux pour être plus précis. Donc le karaté d'un côté et le tai chi de l'autre. Le nom complet étant Tai Chi Chuan, avec deux invités, Nathalie Darginoff pour le Tai Chi Chuan et Manuel Jobert. Voilà, j'ai ton prénom, mais je n'ai pas ton nom. Jobert pour le karaté. Nous avons commencé à faire une petite présentation un petit peu de ce qu'est ce que sont chacune de ces deux disciplines, leurs petites origines historiques sans trop développer. Mais maintenant, en fait, on va proposer, parce qu'on est toujours dans une émission contrôlée par une secte qu'on appelle les profs. Donc on va demander à Emma, membre éminent de cette secte de profs, de nous poser une problématique.
Alors, vas-y, ouais, Emma. Juste avant, tu nous dirais, Manu, ce qu'on vient d'écouter, parce qu'on n'a pas
dit. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, on a connu cette chanson. Alors, hein, dans le patrimoine culturel.
Patrimoine culturel.
Kung Fu Fighting.
Alors, je ne connais pas le nom du chanteur.
Carl Douglas.
Il a un nom, il me fait penser à, vous savez, le black là, qui jouait dans plein de films de baston avec, pas Rambo, c'est l'autre, je ne sais plus.
Ah, dans Carl L'Arme Fatale. C'est dans L'Arme Fatale, non?
Non. Bon, vous voyez.
C'est
pas le même, c'est Carl Douglas.
Ce choix, c'était pour être fair play.
C'est gentil.
Un karatéka, mettre
pour reconnaître
sur le kung fu. Voilà.
Reconnaître le kung fu comme point d'origine du karaté, en quelque sorte.
Absolument.
C'était ça, oui, tout à fait. Donc, Emma, une problématique, s'il te plaît.
On en vient à la problématique, parce que quand même, c'est, pour pouvoir dérouler des fils, il faut bien une question. Alors, la problématique, elle est simple, en fait. Quels sont les liens et les différences entre ces deux arts martiaux?
Ouais, on ne les a pas pris complètement par hasard non plus.
Voilà, il y avait quand même des petites idées derrière. Et peut-être on peut commencer par les liens avec Manu, un texte qui justement fait ce lien-là. On te laisse nous en parler.
Absolument. Il s'agit du texte du Bu Bixi. Et donc c'est un texte qui correspond symboliquement un peu à l'art de la guerre de Sun Tzu en Chine.
D'accord.
Mais qui est une sorte de manuel de technique d'autodéfense, donc de Kung Fu, qui a été transmis entre la Chine et Okinawa. Donc ça a été amené probablement par les Chinois qui pratiquaient le Kung Fu pour aider à la formation des Okinawaïens.
D'accord.
Et ce texte, en fait, il a été retrouvé au XIXe siècle parce qu'il était gardé secret par les différents courants, les différents maîtres. Et on se rend compte que c'est effectivement... s'il y a des gens qui contestent l'origine chinoise du karaté, ben, faut les renvoyer au Bu Bixi. Mm-hmm. Il a été publié en français par un grand expert de karaté, de kung fu et de tai chi qui s'appelle Roland Habersetzer, qui est de Strasbourg.
Okay.
Donc il est toujours... il est toujours disponible et donc on voit, donc ce sont des petits croquis assez simples, mais qui montrent certaines techniques et puis qui expliquent pas mal de choses, notamment sur l'énergie interne, sur les attaques des points vitaux, etc. Donc
D'accord.
on voit bien le lien entre la Chine et le Japon.
D'accord. Mmh. Je vais faire juste une petite parenthèse parce que je m'aperçois qu'on ne l'a pas dit clairement, puisque Manu, tu nous expliques l'origine du karaté par le kung-fu, hein, la pratique, et on parle de tai-chi. Est-ce que, Nathalie, on pourrait expliquer en deux mots la différence entre tai-chi et kung-fu, qui sont deux arts martiaux chinois?
Ah, tai-chi et kung-fu, ben, on dit plutôt que le kung-fu, c'est un art martial externe. C'est beaucoup plus basé sur la force musculaire.
Voilà,
que le
on
tai-chi.
Revient à cette notion d'art martial externe qu'on va pouvoir développer un peu plus. Force musculaire, art martial externe, c'est un peu l'idée. Hein, d'accord.
C'est un peu l'idée. Et tai chi chuan, art martial interne, qui justement, de par ses mouvements lents, cherche à développer l'introspection et le relâchement pour développer
relâchement,
cette énergie
voilà.
interne.
Art martial interne, relâchement, art martial externe, force musculaire, c'est le premier schéma qu'on peut poser. Après, on peut développer un petit peu. Hein, on va vous laisser redévelopper tout ça. Donc, Manu, tu nous expliquais l'origine. Donc, qui vient du Kung Fu et ce fameux Bu Bixi, ce fameux ouvrage qui l'atteste en quelque sorte, hein, que le karaté vient bien de là, du Kung Fu.
Absolument. Et justement, on se rend compte qu'il y a des informations qui sont contenues dans le Bu Bixi, notamment sur L'énergie interne, l'attaque des points vitaux, tout ce qui relève un peu de la médecine traditionnelle chinoise.
Tout
aujourd'hui, on dirait ça comme ça.
Et c'est une branche, hein. Enfin le Qigong en tout cas, c'est une branche de la médecine traditionnelle chinoise.
Absolument.
Et le Qigong Tai Chi.
Et on se rend compte en fait qu'il y a eu une déperdition certaine entre la Chine et Okinawa, notamment pour ce qui est de la pratique interne. Donc il y a eu une déperdition, mais contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, cette déperdition n'a pas été totale et n'a pas concerné tous les styles. Ce qui fait que la dichotomie un peu traditionnelle, et c'est bien qu'elle existe, entre arts martiaux internes et arts martiaux externes, en fait, c'est un point de départ, mais les choses sont un petit peu plus complexes que ça. C'est comme quand on dit le kung-fu du nord, c'est les pieds, kung-fu du sud, c'est les poings.
Oui, c'est les points. Après, ça s'est complexifié.
Voilà, ça permet d'avoir un cadre dans lequel on peut réfléchir,
mais
ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'évolution.
Tout à fait.
Et alors, justement, on parle de relâchement dans les pratiques internes, et pour autant, les pratiques internes ne sont pas inférieures, enfin, si je puis dire. C'est-à-dire que la dimension martiale, on la retrouve quand même aussi, même avec l'interne. Est-ce que peut-être tu peux développer un peu là-dessus, Nathalie ?
Tout à fait, mais ce qui est le problème, peut-être, c'est qu'en France, cet aspect-là est un peu négligé par rapport à la Chine. Moi qui suis en relation directe avec la Chine, vu que je pratique avec des maîtres chinois, c'est vraiment un aspect qui est très présent en Chine, qui l'est moins en France, beaucoup avec le style Yang.
Oui, ça, c'est la domination de style Yang qui fait que c'est naturellement moins développé, la dimension martiale.
Parce qu'elle est cachée, peut-être parce qu'elle n'est pas montrée, et peut-être qu'elle est donc moins enseignée.
Mais
le principe fondamental du Taiji, c'est quand même la recherche du relâchement, son quoi, on dit toujours son quoi, son en chinois, c'est relâchement, et qui garantit une fluidité du mouvement. Et cette fluidité qui peut se transmettre donc à toutes les articulations pour pouvoir coordonner un mouvement parfait, pour pouvoir exprimer une force externe très puissante. Donc en fait, c'est ça qu'on cherche aussi par la lenteur. On cherche l'exactitude du mouvement, la justesse du mouvement et le relâchement du mouvement. C'est aussi pour qu'on dit, on assimile souvent ça à une méditation en mouvement. C'est pas vraiment une méditation, mais un peu, parce que forcément, on est obligé, on est obligé d'être parfaitement concentré sur ce qu'on
totalement,
fait.
Et
en même temps, avoir
autre chose.
Un lâcher prise, un relâchement au niveau du corps, ce qui est quelque chose de pas du tout évident. Ça s'apprend, ça se travaille. C'est vraiment un travail sur le long terme pour pouvoir ensuite concentrer cette énergie dans certains points du corps et la restituer au moment de la frappe.
Et comme c'est si ça, ce vraiment, travail c'est pour crée ça une que... sorte de phénomène d'accumulation, ce
exactement.
Travail dans le relâchement, et cette accumulation va permettre ce que tu as appelé des sorties de force tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation de cette énergie dans une dimension martiale soudaine.
Et moi, je me souviens, il y a un maître qui était venu, quand je faisais du tai chi, qui était venu faire un stage, et il expliquait qu'il pouvait projeter un gars à plusieurs mètres.
Alors ça, c'est les Chinois.
Je ne l'ai pas vu, mais
les Chinois, ils ont un point commun avec les Marseillais, c'est que nous avons des trucs absolument extraordinaires. Je vous rappelle que les premiers maîtres taoïstes, ils vivaient 900 ans. Mais oui, t'as raison, mon gars.
Mais voilà, en tout
soyons
cas, l'idée, c'est que
quand
même une sortie de force, ça a de la force, quoi.
Oui, d'accord.
Et c'est aussi pour ça que le Taiji était aussi assimilé à un art de santé, parce que le fait d'accumuler ce qi, cette énergie vitale qui est considérée comme telle dans les médecines chinoises, fait qu'elle renforce les organes, elle renforce le corps, etc. Et c'est un bienfait pour notre corps, pour notre santé. Mais la dimension ultime, c'est le pengjin, c'est la force martiale externe. C'est externaliser cette force qui vient de l'intérieur par
un travail
d'accumulation, de travail du chi interne.
Je me rappelle au tout début que je pratiquais le tai chi, donc il y a hyper longtemps, j'avais lu un bouquin d'une universitaire qui s'appelle Catherine Despeux. Je me souviens encore de son nom, je n'en reviens pas. Alors que ça fait plus de 30 ans que je l'ai lu. et le livre s'appelait « Tai chi, art martial et technique de longue vie ». Et je trouvais que ce titre, il est vraiment parfait, quoi, parce qu'il dit tout, en quelque sorte, de cette pratique. Alors, on va rebondir avec Manu, côté karaté. Là, tu as entendu plein de choses. Qu'est-ce que ça te dit, toi, du côté karaté
Ça me parle beaucoup, puisqu'en fait, les choses, comme je disais tout à l'heure, ne sont pas aussi... différentes que ça. Ce dont on parle là, c'est une reprogrammation neuromusculaire. En travaillant tout doucement, ça permet d'avoir une reprogrammation des muscles, etc.
Ça, c'est intéressant.
La détente, la détente interne, et transmission. Moi, je vais parler de force plutôt que d'énergie.
Ouais,
on
ouais.
pourra y revenir tout à l'heure, mais mm-hmm. c'est quelque chose qui, aujourd'hui, scientifiquement, est avéré. Alors, le problème
si
du karaté...
Par une posture juste aussi.
Absolument.
Totalement,
la posture
ouais,
est fondamentale.
La posture est fondamentale.
Ouais, tout à fait.
Le problème du karaté, c'est que ça s'est beaucoup développé dans les années 30 au Japon. C'était à une époque où... il y avait l'ultranationalisme qui se développait, et puis ben, vous connaissez la suite avec la Deuxième Guerre mondiale, et donc la plupart des karatékas de l'époque étaient en fait entraînés non pas pour avoir une vie longue et paisible, mais pour avoir un mental d'acier leur permettant d'aller au combat, ce qui a complètement dénaturé le karaté.
À partir de là, on change radicalement la finalité un peu de cet art martial.
Absolument.
Et ça, ça change la forme aussi, du coup.
Et ça a énormément changé la forme.
C'est la voie Shotokan dont tu nous parles.
C'est la voie Shotokan moderne, en fait.
Moderne, hein,
tout à fait.
D'accord. Okay.
Quand on voit les photos de Gichin Funakoshi qui a introduit le karaté au Japon et ce que son fils en a fait, on a l'impression que c'est pas du tout. C'est pas du tout la même chose.
Donc là, il y a une forme de transformation profonde qui s'opère.
Il y a une transformation profonde et qui a eu des conséquences et qui a encore des conséquences aujourd'hui sur, d'une part, la pratique de certains pratiquants. Il y a quand même beaucoup de karatékas qui ont réfléchi à cette chose-là et puis qui ne pratiquent plus comme dans les années 30 ou 40 au Japon.
Ouais.
Mais ça a quand même laissé des traces au niveau technique, notamment dans le style Shotokan, qui est le style qui était le plus populaire, parce que justement, ça formait des combattants redoutables. Néanmoins, il y a d'autres styles, notamment celui que je pratique, le Wado Ryu, qui sont un peu plus... Enfin, qui sont différents, qui n'ont pas suivi cette voie-là.
Alors, si je veux me permettre, juste interrompre deux secondes pour dire les choses clairement, le style Shotokan, issu de cette transformation profonde, amène quand même à une philosophie radicalement opposée à celle qu'on vient de définir, c'est-à-dire art martial, mais pas technique de longue vie, puisque là c'est au prix d'une usure accélérée d'un certain nombre d'éléments corporels, d'articulation, etc.
Et ça n'a pas été un peu aussi accentué par le fait qu'il y a eu la compétition qui a été... mise en jeu.
Oui,
la compétition, c'est beaucoup dénaturé le karaté pour moi.
Oui, alors tout
on
à fait.
Donne
alors,
la parole
l'aspect sportif, l'aspect.
Oui, la compétition a transformé d'autres choses, mais j'allais dire de manière bien moins grave que ce qui avait été fait préalablement.
Oui, la guerre.
Ouais, d'accord. Ouais.
Et du coup, tu peux nous parler de ton style.
Oui. Voilà. Il existe quand même d'autres styles plus respectueux.
Alors, plus respectueux, je pense que les adeptes du Shotokan ne seraient pas d'accord. Hein, parce
ils
sont
plus respectueux du corps humain.
Du corps humain, oui.
Voilà,
alors,
je voulais dire ça.
Ce qui est intéressant, c'est que donc, le style que je pratique, le Wado Ryu, a été développé par Hironori Otsuka, qui a en fait appris le karaté auprès de Gichin Funakoshi, donc du Shotokan.
Ouais.
Donc, il a appris le Shotokan d'origine.
Ouais.
Et cet homme était à la fois rebouteux, on ne disait pas ostéopathe à l'époque,
mais enfin,
il était
rebouteux,
et maître d'un style de jujitsu japonais qui s'appelait le Shindo Yoshin, Ryu. Et à partir de là, il a réfléchi à la manière dont le karaté Shotokan évoluait et il s'est séparé du fils de Gichin Funakoshi en disant « Mais non, cette évolution n'est pas propice au bon fonctionnement du corps humain et de la société. » Et par ailleurs, il a intégré énormément d'éléments de jujitsu japonais, ce qui a apporté une fluidité bien plus grande que ce que l'on peut voir dans des styles, même des styles okinawaïens purs et durs qui sont restés plus proches de la source chinoise. C'est encore plus souple que ce qu'on peut voir à Okinawa.
D'accord, ok. D'accord, donc ça, c'est ton style.
Absolument.
Que tu nous, vas-y, répète-nous. Comment il s'appelle ?
Le Wado.
Wado Ryu.
Voilà. Wado Ryu.
Et en termes de pratique interne, vous posez parfois sur... Enfin, en tai chi, par moment, on a des exercices où on va vraiment se concentrer sur l'interne. Est-ce que ça existe aussi dans le karaté ? Enfin, comment tu retrouves cet interne-là dans ta pratique ?
Alors, le chi ou le ki en japonais...
Oui, le nom japonais,
c'est
pour le chi, le souffle. Hein,
j'ai retrouvé... Je crois que c'est la première utilisation du mot chi, c'est c'est Lao Tzu qui a écrit « Les 10 000 choses contiennent à la fois le yin et le yang en unissant par la vertu du qi, en les unissant par la vertu du qi et elles atteignent à l'harmonie. Mmh. Sixième siècle avant Jésus-Christ. Mmh. C'est très joli, mais ça ne veut pas dire grand-chose.
Comme il est, lui.
Et en fait,
un coup de pied dans la fourmilière taoïste.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la chose qui me convainc le plus aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a mis le nom chi ou ki sur quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer à l'époque
où ça a été
développé, où ils se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose. Mm-hmm. Et donc, on a appelé ça le chi ou le ki. Mm-hmm. Et en fait, on se rend compte que tu parlais tout à l'heure de la posture. Quand il y a un alignement du corps, quand il y a le souffle qui est contrôlé, quand il y a un relâchement musculaire et que la technique est effectuée de manière
juste.
Il se trouve que la force produite est bien plus importante que quand on est tendu, raide et mal positionné. Après, est-ce que c'est du chi? Est-ce que c'est simplement une bonne utilisation du corps? Là, c'est un domaine sur lequel je ne m'avancerai pas. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me paraît le plus convaincant aujourd'hui pour être entendu justement par les non-pratiquants, plutôt que de leur parler de choses à distance, je vais te faire tomber, comme on entend parfois, c'est de dire, voilà, on a appelé chi ou ki quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre. Mais aujourd'hui, on a quand même des outils, une connaissance de l'anatomie, du fonctionnement du corps qui permettent d'expliquer pas mal de choses.
Alors, on peut entendre ça aussi dans sa dimension philosophique. Je veux dire, le chi, le souffle qui unit tous les êtres vivants. Voilà, on peut tenir juste un discours philosophique là-dessus. Après, ce qui a pu se passer, c'est que de cette dimension philosophique, on en tire une notion plus concrète, le chi, l'énergie qu'on projette, etc. Mais là, on reconnaît bien le côté facétieux des Chinois en même temps, toujours en faire des tonnes. C'est mon côté un peu sarcastique. La naïveté des Occidentaux qui ont toujours besoin qu'on leur donne des hochets, des bonbons, donc ils veulent des danes, ils veulent du chi, etc. Mais finalement, moi je vois avec beaucoup de pratiquants de haut niveau que je côtoie et qui sont profs aussi, souvent ils en voient bouler quand on s'amuse à parler de chi. Non, mais c'est pas ça qui est important. Et ils vont parler exactement de tout ce que tu développes.
Mais en revanche, enfin, ce que moi, alors je sais pas si c'est du chi ou autre chose, mais le fait qu'il y ait une circulation qui se produise en pratiquant le tai chi, moi je l'ai ressenti. Alors je sais pas qu'est-ce qui circule et voilà, mais
en tout cas, en plus
il y a quelque chose qui se passe.
Des exercices spécifiques qu'on appelle le neigong. Neigong, nei c'est l'interne, gong le travail, neigong, et qui vise uniquement à cultiver ce chi. Et tout pratiquant de tai chi cultive le fait du neigong avant de faire une forme, parce qu'on fait des formes, des mouvements, mais on dit toujours que si on pratique une forme vide, c'est pas faire du tai chi. Faire du tai chi, c'est pratiquer le neigong, c'est faire circuler l'énergie interne.
Mais c'est ça que je trouve assez beau.
C'est un peu la dérive
beau.
Aussi, je trouve, en Occident, c'est qu'on veut apprendre des tas de mouvements, par exemple dans le style yang, on dit qu'il y a une forme qui fait traditionnel 108 mouvements, et alors qu'on n'arrive pas à en faire un seul de façon correcte,
dans le style,
ça dépend totalement de ce qu'on recherche.
Et dans le style qu'on pratique avec Patrick, en fait, on peut rester toute sa vie sur les 15 premiers mouvements, alors qu'il y en a 64.
Je pense que c'est
pareil. Moi, j'ai passé un stage dernièrement en Italie, ou pendant
stage sur l'ouverture.
Une heure, on a fait que l'ouverture.
Je l'ai fait aussi.
Totalement. Et même parmi les 15, le premier mouvement, on peut y passer des années.
C'est
d'une richesse extraordinaire. Ouais, totalement. Totalement. On va faire une petite pause musicale, messieurs, dames, une deuxième pause musicale. Là aussi, ce sera la surprise, mais celle-ci, je pense que personne ne va reconnaître. C'est parti. Oh,
couleurs du monde.
Vous écoutez Couleurs du monde sur Caladma Radio, notre émission de cette nouvelle année, en quelque sorte, hein, 2025, on n'est pas encore habitué, consacrée à deux arts martiaux, le tai chi chuan et le karaté, avec deux invités, Nathalie Darginov et Manuel
Jobert,
je ne vais pas y arriver avec ton nom de famille, ce n'est pas possible. Nous venons d'écouter un drôle de morceau. Explique-nous ça, Nathalie. Qu'est-ce que c'est que ce morceau étrange qu'on a écouté?
Alors, c'est un groupe de métal mongol qui s'appelle The Who, que j'ai vu en concert récemment à Lyon, à Calure, au mois de septembre.
D'accord.
Que je vous recommande. C'est un groupe.
The Who, ça s'écrit H-U pour H-U, ceux qui voudraient trouver
The
ça
Who
sur Internet.
Band.
Band. Et le titre, c'était The Great Genghis Khan. Donc, personnage historique
un
que l'on connaît.
Metal mongol.
Metal mongol, trop fort. Nathalie, t'es trop forte, bravo. Qu'est-ce qu'on fait pour cette troisième partie, Emma?
Eh bien, en fait, on a pris un peu les choses à l'envers par rapport à ce
ouais,
qu'on fait d'habitude.
Ouais, on aime bien. Upside down, comme on dit en anglais.
L'idée, ça serait, qu'est-ce qui chacun vous a amené à faire, toi du tai chi et toi du karaté, qu'est-ce qui vous a conduit à ce choix aussi de cette discipline-là plutôt qu'une autre et de ce style plutôt qu'un autre? Tu veux commencer,
Nathalie?
Nathalie,
mais alors, je
Nathalie
veux bien,
Darginov.
Personnellement, moi, j'étais gymnaste à la base, j'ai fait beaucoup de gymnastique, okay. Un sport passion jusqu'à l'âge de 25 ans. Et après, je me suis engagée dans les arts martiaux et j'ai commencé par justement le karaté Shotokan dont parlait Manu. Que j'ai pratiqué à Villefranche.
D'accord.
Pendant 10 ans, j'aimais beaucoup le karaté. Ah. Et je suis partie ensuite pendant 2 ans vivre à Taïwan, où j'ai appris le chinois pendant 2 ans. J'avais
D'accord.
des cours de chinois. Et arrivée là-bas, j'ai cherché du karaté, mais je n'ai vraiment pas trouvé ce que je voulais.
C'était pas le bon lieu.
C'était pas franchement le bon lieu. Et tout me ramenait tout le temps au Taiji, puisque le matin,
ah oui.
les Chinois pratiquent
Taïwan, c'est
dans,
sûr.
Dans les parcs. Et moi, au départ, je ne voulais pas y aller parce que je me disais, oh là là, il faut se lever à 6 heures du matin. C'est que
c'était pas du matin.
C'est un truc de vieux. À l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais 29 ans. Et puis, bon, bah, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à trouver un groupe de Taiji et j'ai commencé à pratiquer dans les parcs.
D'accord.
Par le style Sun et le style Yang, justement.
D'accord.
Et ça m'a beaucoup plu. Après, j'y allais tous les matins et après, je faisais mes cours de chinois. Enfin, c'était une époque assez faste pour moi, une mm-hmm. belle époque. Et un jour, une Taïwanaise m'a dit, Nila, je commence à parler en chinois.
Le mieux, c'est nous dire en français.
Elle me dit, viens, je vais te montrer un autre style de Taiji.
D'accord.
Et elle m'a montré un cours de Taiji style Chun. Et pareil, quand j'ai vu le style de Chun, ça a été
une révélation.
Donc j'ai pratiqué le style de Chun, mais il faut dire qu'à Taïwan, c'est connu Taïwan pour être une île où beaucoup d'anciens maîtres d'arts martiaux se sont réfugiés en 1949 avec
qui n'étaient pas fans du communisme.
Chiang Kai-shek, voilà, le communisme et tout ça. Et donc le Chun que j'ai pratiqué à Taïwan, je ne l'ai jamais retrouvé en France. C'était vraiment très ancien, très particulier.
D'accord.
Donc j'ai écumé en arrivant à Lyon tous les cours de Taiji de la ville et que j'ai pas trouvé ce que je voulais.
D'accord.
Malgré tout. Et du coup, j'ai recommencé un peu de karaté. Et puis de fil en aiguille, un jour, je suis tombée sur une association qui s'appelle l'IRAP, l'Institut de recherche des arts du poing de Maître Wang Xian.
Ah.
Maître Wang Xian est il fait partie des 4 Bouddhas du style Chun au niveau mondial. Il est reconnu
donc
comme
c'était un des 4 maîtres reconnus comme dépositaire de la lignée.
Comme dépositaire de ce style. Il y en a 4 en Chine qui sont connus mondialement pour ça et Maître Wang Xian en fait partie.
Et donc toi, tu t'es inscrit dans sa lignée et tu pratiques ce Tai Chi Chen
et j'ai vu les gens de cette école pratiquer. J'ai vu le relâchement surtout qu'ils avaient, le relâchement
on
que je n'avais pas trouvé dans d'autres
vidéos,
écoles
hein,
de style Chun.
J'ai fait
plusieurs écoles avant ça, même à Lyon, et je n'ai pas trouvé ça. Et là, je l'ai trouvé et j'ai rencontré le maître. Et là, depuis, j'ai plus jamais arrêté.
D'accord, tu as trouvé ton maître.
Et j'ai même pris des grandes responsabilités dans cette association, puisque maintenant, je suis devenue carrément la secrétaire. Le maître Wang Xian est décédé cette année, l'année dernière, en 2024.
Oui, récemment.
L'association IRAP, IRAP.
D'accord, c'est cette association dont tu es devenue secrétaire. Donc toujours l'IRAP, qui regroupe plusieurs clubs qui travaillent le style de Wang Xian.
De Wang Xian, voilà. Qui,
d'accord,
qui,
très bien.
Qui relève de cette école-là. Et maintenant que le maître est décédé,
On accueille maintenant en France son fils cadet, qui est un combattant invaincu en Chine, qui est un très très combattant de Taiji, donc la preuve que c'est bien un art martial, le Taiji, qui s'appelle Wang Jiangjun, et j'ai déjà fait deux stages
avec lui. Donc le successeur officiel de Wang Xian.
Et on va le faire revenir l'été prochain, cet été.
D'accord.
En France.
Très bien. On va laisser la parole à Manu pour son parcours personnel, niveau karaté.
Alors moi, j'ai commencé quand j'étais au collège. Et je suis tombé sur un article qui présentait le karaté dans un magazine, je ne sais plus lequel. Et je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Je ne pratiquais pas vraiment de sport à l'époque. Et je me suis dit, ouais, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, j'habitais dans une ville où il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc, j'ai commencé avec le premier cours de karaté que j'ai trouvé. Ce n'était pas du Shotokan, c'était du Shotokai, qui est une sorte de style un petit peu différent. J'en ai fait 2 ans, puis je suis tombé sur un club de Shotokan ensuite. C'est ça, j'ai pratiqué beaucoup plus longtemps. J'ai eu mon premier Dan Shotokan. Et puis, quand je suis venu faire mes études à Lyon, j'ai cherché un club et je me suis rendu compte que les ambiances de club à Lyon n'étaient pas vraiment...
Pas très sympa.
C'était pas ce qui me correspondait au moment où j'étais là. Donc, j'ai un peu papillonné. J'ai fait un autre style de karaté qui s'appelle le Shaolin Mon Karate Do, que tu connais.
Que je connais bien,
parce qu'il y avait des...
Qui avait d'ailleurs invité Maître Wang Xian en France pour faire ce lien avec le Taiji.
Voilà, parce qu'il y avait une dimension karaté...
Taichi de combat.
Taichi de combat. Tokitsu, qui était le fondateur de ce style, fait aussi beaucoup de Taichi. Et puis j'ai rencontré le Wado Ryu. Grâce à Michel Muller, qui est expert fédéral à Lyon, qui est un club à la Croix-Rousse, qui est toujours actif, le club, et Michel Muller aussi. Et donc, pour moi, ça a été une révélation, parce qu'il y avait à la fois le côté efficace qu'on attend un peu du karaté, mais aussi quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus axé sur les esquives, sur le travail de la souplesse. Et puis aussi, l'âge avançant, j'étais un peu sensible au fait que si on veut pratiquer longtemps, il faut aussi ménager sa monture.
J'allais le dire.
Et puis, voilà. Et puis avoir un style plus compatible avec l'âge. Alors, c'est pas un style pour les personnes âgées, hein, c'est pas ce que je veux dire.
Mes deux enfants qui ont 8 et 12 ans pratiquent depuis 2 ans. Donc,
ce style Wado Ryu avec Manu.
Du coup, c'est aussi pour les enfants.
Et inversement, le Taiji, contrairement à ce que moi-même je pensais au départ, n'est pas du tout un art martial pour personnes âgées, puisqu'en Chine, il commence très très tôt.
Oui, tout à fait.
Grâce à ma découverte du Wado Ryu, j'ai eu la chance de pratiquer avec le fils du grand maître du Wado Ryu, qui a épousé une Française et qui a été pendant 10 ans à Montpellier. Et
donc, c'est génial. Pour la transmission, c'est extraordinaire.
Il organisait des stages à peu près tous les mois en France. Donc pendant 10 ans, j'ai pu le suivre. Et puis, au décès de son père, il a été sommé de rentrer au Japon pour s'occuper de l'école.
Bien sûr.
Donc, j'ai eu l'occasion d'aller le voir l'an dernier dans son dojo à Tokyo.
D'accord.
Et donc, en plus de la Fédération française de karaté, dont on reparlera tout à l'heure, le style Wado Ryu est structuré autour d'une association qui s'appelle la Wado Academy, donc qui est une association française, mais il y a la Wado Academy Europe qui structure un peu le développement de ce style dans la tendance de Hironori Otsuka, donc du grand-père, mais du père et du fils.
Pas du Saint-Esprit.
Alors, pas le Saint-Esprit.
Il y a le grand-père à la place.
Mais chose intéressante, comme dans toutes les familles traditionnelles, dans beaucoup d'arts martiaux, mais pas que martiaux, le successeur reprend le prénom du père. Donc, c'est-à-dire que Hironori Otsuka, c'était le grand-père fondateur. D'accord. Son fils, qui s'appelait Jiro, est devenu Hironori aussi.
D'accord.
Et le petit-fils qui s'appelait Kazutaka s'appelle Hironori Otsuka aussi.
Très bien.
Voilà.
On peut faire peut-être le lien directement. On va passer à le deuxième aspect de cette partie finale, c'est-à-dire, tu peux nous présenter un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui du karaté en termes de structuration nationale et internationale, puisque c'est quand même, là, je pense, un petit peu plus structuré que le Taichi au niveau national et international, si je ne me trompe pas. Vas-y.
Alors oui, effectivement, le karaté est extrêmement bien structuré en France et au niveau mondial, notamment grâce quand même à la dimension sportive, puisque les fédérations ont quand même vocation à développer la dimension sportive, mais ça a permis aussi d'éviter des dérives qu'il y a pu avoir à un moment où des pseudo-experts venaient, d'accord, faisaient un peu n'importe quoi.
D'accord, oui, donc, il y a aussi ça aussi.
Voilà, hein. Voilà. Avec
l'utilité d'une structuration, c'est contrôler un peu les dérives aussi.
Absolument, et puis vérifier qu'on ne met pas devant notamment des enfants, des gens complètement, complètement cinglés.
Non compétents et surtout qui pourraient leur faire du mal physiquement,
absolument,
je veux dire.
Absolument, et mentalement.
Et mentalement aussi.
Et voilà, donc il y a une structure fédérale. La Fédération française de karaté, même si elle s'occupe quasiment exclusivement de la dimension sportive, c'est une fédération très, très efficace, très, très, très bien structurée, qui donne des diplômes d'enseignement, qui vérifie que les grades qui sont mis en avant par les gens sont effectivement des grades reconnus et que c'est pas... au gré
ça
des...
sort pas,
ça sort pas d'un
ça,
chapeau.
C'est
pas la tête du client.
À une époque, les gens faisaient un petit tour d'une semaine au Japon, ils revenaient avec 3-4 dan en plus. Donc il y a quand même des contrôles. Donc c'est assez bien organisé. Au niveau de la formation, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de l'inclusivité avec karaté pour le handicap, égalité homme-femme, etc. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place comme ça, ce qui est quand même rassurant, notamment pour les parents. Je te regarde, Emma, qui mettent des enfants dans un club. C'est vrai qu'il y a quand même des garanties de sérieux, de compétences et puis de sécurité pour les enfants, mais aussi pour les adultes.
On va passer à Nathalie. Donc, si tu peux nous parler un petit peu de la structuration du Tai Chi en général, niveau français et international.
Ben en France, il existe aussi une fédération, la FFAEMC, Fédération française des arts énergétiques martiaux chinois, dont le siège est à Paris, et qui, effectivement, a volonté également de structurer, de former, de délivrer des diplômes, des CQP, qui permettent d'enseigner contre rémunération le Tai Chi et le Qigong. J'ai moi-même passé, il y a 2 ans, un ATT2, une attestation technique de niveau 2, qui permet de pouvoir accéder à un diplôme professionnel pour pouvoir enseigner.
Et donc, cette fédération n'est pas liée spécifiquement à un courant style Yang ou style Chen ? Comment elle fonctionne ?
Donc, elle regroupe tous les styles.
D'accord, elle regroupe tous les styles. Oui, c'est ça qui est important, en fait.
Et de Qigong, donc il y a plusieurs aussi de Qigong. Et c'est vrai qu'aussi, dans le passé, il y a eu un peu une prépondérance plus d'un style que d'un autre. Il y a toujours un petit peu des guerres internes, mais moi je crois que
c'est un peu systématique partout.
Le
karaté n'a pas été exempté de ça.
Elle a le mérite d'exister et de permettre à des gens donc qui pratiquent, qui enseignent comme moi. Moi j'enseigne depuis une vingtaine d'années le Tai Chi, de pouvoir avoir un pignon sur rue, quoi, d'avoir un vrai diplôme, une vraie attestation qui dit nous sommes des
pratiquants sérieux, des enseignants sérieux. Voilà.
Exactement.
Ça, c'est la base quand même aussi,
Donc,
pour sécuriser les pratiquants.
Je suis diplômée, j'ai ma licence à titre personnel donc à cette fédé, fédération. L'IRAP aussi est affiliée. Mais en tant que pratiquant, on n'est pas sommé d'adhérer à cette fédération. Il y a d'autres fédérations qui délivrent aussi d'autres diplômes.
Ok.
Voilà. Alors que nous, pour le coup, ils ont une licence de la fédération de karaté.
Il y a une autre fédération de karaté qui existe, mais qui n'est pas la fédération délégataire.
D'accord.
Une petite bricole, entre guillemets, qui fait une grosse différence quand même. C'est-à-dire que dans le Tai Chi, il n'y a pas cette pratique de compétition sportive. Il n'y a pas cette pratique de structuration, ceinture noire, ceinture blanche, jaune, orange, machin, poète, etc., de dan. Tout ça, ça n'existe pas en Tai Chi. Et il n'y a pas de compétition sportive, du moins reconnue au niveau international. Je sais qu'en Chine, il y a des compétitions sportives, mais pas au niveau international.
Il y a des compétitions de Tai Chi, qui existent, qui sont très développées en Chine. Ça commence, franchement, il y a un courant en ce moment en France que je constate un peu sur les réseaux sociaux parce que je suis assez dans ce milieu-là du Tai Chi, de compétition de Tui Chou. Le Tui Chou, c'est la poussée de main, c'est ce qu'on pratique à deux. Et effectivement, il y a une résurgence d'intérêt pour l'aspect martial du Tai Chi en France. Oui.
Mais on n'est pas encore au stade, les gamins, ils vont faire du karaté, ils vont faire des compètes les week-ends, etc.
Aux Jeux Olympiques, il n'y a pas le,
sachant que le tai chi,
ça
se
pratique encore.
Par contre, le tai chi a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a un an ou deux, je ne sais
Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Messieurs, dames, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons devoir conclure. C'était extrêmement riche et extrêmement intéressant. On a bien saisi un peu les liens et les différences entre ces deux disciplines que sont le tai chi d'un côté et puis le karaté de l'autre. Un mot pour la fin. Manu, c'est à toi. Un petit mot pour la fin.
Un petit mot pour la fin. Eh bien, on parlait des Jeux Olympiques. Le karaté n'a pas été...
C'était affreux, ça. Ça m'a énervé.
Donc, d'un côté, c'est dommage parce qu'au niveau, financier, ça implique que la fédération n'aura pas autant d'argent qu'elle aurait pu avoir.
Tout à fait.
En même temps... il faut s'interroger, se dire que peut-être c'est peut-être un mal pour un bien.
Très bien, merci. Nathalie, un petit mot de conclusion ?
Un petit mot de conclusion, je dirais que le tai chi, ça fait partie de ma vie, c'est devenu une voie, et que j'en ferai jusqu'à la fin de ma vie, je l'espère. Et qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'arrêter.
On mettra dans le podcast des liens avec vos activités sportives en tant que professeur pour que si les gens intéressés puissent vous contacter.
J'enseigne à Franc et à Villefranche.
Tout à fait. Et Manu, tu enseignes où ?
Saint-Étienne-des-Oulières. Jolie petite bourgade du Bourgogne.
Emma, un mot de conclusion ?
Juste merci à nos deux invités, effectivement,
merci
d'avoir pu nous montrer les liens et puis les différences aussi entre ces deux arts martiaux. Et puis, le fait d'en parler, je trouvais que c'est une bonne manière de démarrer cette année 2025.
Auditeurs de Calade, à bientôt.
Merci à vous.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.